Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'était avant-hier, en Normandie, sa dernière participation officielle à des cérémonies d'importance, et le choix de son chapeau témoignait d'une maestria toute britannique. Theresa May, ce matin, n'est plus présidente du Parti conservateur. Elle n'est donc qu'un premier ministre en sursis, chargé d'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation de son successeur d'ici le 20 juillet prochain. « Brexit means Brexit », martelait-elle il y a 3 ans, mais depuis, ce chapeau-là s'est avéré trop grand, trop lourd, à tel point que beaucoup de commentateurs outre-Manche considèrent sa performance à la tête du gouvernement comme l'une des pires, sinon la pire, de l'histoire politique du royaume. Sans conviction sur l'Europe, sans pragmatisme non plus, obsédée par la politique interne de son parti aux dépens de la politique tout court, agissant à contre-temps face à son Parlement et aussi face à Bruxelles, Madame May abandonne un champ politique dévasté au lendemain des élections européennes. S'il convient, bien sûr, de saluer une forme de courage et de persévérance, fût-ce dans l'erreur, l'essentiel maintenant est d'explorer les prochains scénarios. Qui va lui succéder? L'accord négocié à grand-peine par Michel Barnier est-il mort? Le favori Boris Johnson se dit prêt à sortir de l'Union européenne sans accord, mais le Parlement de Westminster est contre. Jusqu'où le grand vainqueur des européennes, Nigel Farage, à l'extrême droite, peut-il désormais infléchir le jeu et peser sur le système bipartisan traditionnel? Quelle marge de manœuvre aussi pour ceux qui veulent rester dans l'Union? Qu'en pense-t-on à Bruxelles? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Jonathan Fenby, bonjour. Vous êtes historien, écrivain, fin connaisseur de la politique des deux côtés de la Manche. Nous sommes ravis de vous accueillir ici avec nous ce matin. Marie-Claire Considère Charon, professeure émérite de civilisation britannique et irlandaise à l'Université de Franche-Comté. Merci d'être avec nous. Par téléphone, depuis la Grande-Bretagne, Anan Menon. Bonjour Anan, vous êtes professeur de politique européenne et de relations internationales au King's College de Londres. Ian Begg, professeur à la London School of Economics et co-directeur du Dahrendorf Forum, et aussi notre ami Charles Grant, directeur du Center for European Reform de Londres. Et nous aurons tout à l'heure avec nous Sébastien Maillard, qui lui dirige à Paris l'Institut Jacques Delors. Jonathan Fenby, je commence avec vous. Le paysage politique britannique commence à ressembler à un paysage, je n'ose pas dire à la française, mais presque.
Au pire. Dans le sens traditionnel de la France.
Voilà. Alors, comment est-ce que de cette espèce de champ de ruines fumantes, on peut voir émerger un système qui fonctionne?
C'est très difficile à voir ça, et c'est le deuxième problème, parce qu'il y avait plusieurs problèmes depuis 3 ans en Angleterre, en Grande-Bretagne plutôt. D'abord, il y avait le Brexit, la vote du Brexit, et le fait que ça a fait la chute de David Cameron comme Premier ministre, l'arrivée de Madame May, qui a essayé de jouer forte. Vous avez parlé de Brexit means Brexit, etc., etc., mais sans les ressources ni l'habilité. Un énorme manque de habileté diplomatique et politique, il faut dire. Et elle a perdu. Elle a échoué complètement. Mais en même temps, on a le parti, bon, on a son parti, le Parti conservateur, qui est très divisé, avec la base qui est très Brexit, mais la majorité des membres de la Chambre de communes qui veut rester dans l'Union européenne.
Donc il y a déjà un divorce entre les militants
absolument
sur le terrain et les députés.
Et les députés.
Les députés du Parti conservateur qui sont eux-mêmes divisés entre eux.
Entre eux, absolument, ouais. Divisés. Avec un poignet très fort, très dur, très déterminé, des Brexiteers, comme ça, qui veut faire tout. Qui veut faire tout échouer, qui font une politique du pire, dans un sens. au sein de leur propre parti. Et c'est ça qui est important. C'est pas contre les opposants, c'est contre les supposés collègues. Mais en même temps, on a le parti travailliste qui est très divisé.
Avec le même phénomène.
Avec le même phénomène.
Mais dans l'autre sens.
Exactement, exactement. Mais aussi avec beaucoup des députés qui sont pour Remain dans le parti travailliste, mais qui représentent des circonscriptions qui ont voté pour Brexit, etc. Donc tout ça, c'est énormément confus. On a Monsieur Farage, dont vous venez de parler, qui arrive comme ça, soudainement, et aux élections européennes, qui étaient faites absolument pour lui. Il est fait à tabac.
C'est sidérant, parce que Nigel Farage, vu d'ici, on a tendance à le considérer un peu comme un histrion.
Oui.
Alors, il a siégé au Parlement européen pendant des années, tout en pourfendant l'Europe, mais enfin, ça, il n'est pas le seul à l'extrême droite. Mais là, c'est sidérant, parce qu'il va avoir, il a déjà plus de députés que la CDU de Mme Merkel. Donc,
oui,
il est le premier parti politique en nombre de sièges au Parlement européen.
Et au Royaume-Uni, il pose une énorme question pour le parti conservateur. S'il y a une élection, est-ce qu'il doit être plus Brexit que Farage? Ou est-ce qu'il veut être un vrai parti général, comme ils ont toujours été? Et en même temps, on a l'arrivée de nouveau des Liberal Democrats comme une troisième force, mais personne ne sait si eux, ils peuvent gagner beaucoup plus de sièges sous le système actuel. Donc, c'est les trois partis, plus M. Farage, qu'on a en jeu en Angleterre, plus la question de l'Écosse et l'indépendance de l'Écosse, qui est sur la table.
Et la question de l'Irlande.
L'Irlande et l'Irlande du Nord, et tout ça, dans un schéma institutionnel en Bretagne, en Grande-Bretagne, qui peut pas contenir toutes ces tensions.
Anand Menon, on a l'impression, et encore une fois en France, on en a hélas davantage l'habitude, mais qu'il y a un vrai problème d'institution. C'est-à-dire qu'on voit que cet admirable système parlementaire britannique implose parce qu'il ne peut pas digérer les résultats d'un référendum. On sait aussi que dans ce système, vous allez changer de Premier ministre sans nécessairement passer par des élections. Comment sortir de cette impasse qui a l'air d'être de plus en plus étroite?
Enfin, c'est difficile, mais c'est une intéressante question si c'est un problème politique ou institutionnel. Et moi, je dirais, à ce moment, c'est toujours politique, c'est-à-dire on peut voir une solution via une élection. C'est pas clair ce que se passerait pendant une élection, mais une élection va changer le maths dans le Parlement. Et c'est ça le problème à ce moment. Et je dirais en plus que on peut dire que le Parlement britannique représente parfaitement le peuple britannique. Parce que ils sont divisés, ils sont énervés, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et il n'y a pas d'accord entre eux. Dans ce sens-là, le Parlement est le miroir du peuple britannique.
Pour autant, les contraintes restent les mêmes. C'est-à-dire que les élections européennes ont prouvé à quel point elles sont mortelles si on les transpose au plan national, même avec un mode de scrutin entièrement différent. Il faut quand même toujours rappeler que les européennes, c'est à la proportionnelle et que le mode de scrutin britannique, c'est-à-dire majoritaire à un seul tour, a toujours favorisé deux grands partis.
C'est ça qu'on ne sait pas clairement. Si on peut transposer le résultat des Européens à une élection nationale. Il me semble que les Britanniques sont devenus assez... savent assez bien presser une vote. C'est-à-dire ils savent bien quand c'est une élection différente, quand c'est ce qu'appellent les politologues « second order election » comme les Européens. Ils savent aussi quand c'est un système différent, le proportionnel pour les élections européennes. Mais c'est pas du tout clair que ça va être le cas dès qu'on a une élection nationale, avec un système différent, avec deux partis, l'un d'entre eux va former un gouvernement.
Mais on a l'impression jusqu'ici que chacun des deux grands partis fait tout pour éviter des élections générales.
Absolument, et surtout les conservateurs. Et ça, c'est un des problèmes avec Brexit, parce que moi, je disais auparavant qu'une des solutions serait d'avoir une élection. Le problème, c'est que les deux grands partis ne veulent pas du tout avoir une élection. Et pour les conservateurs, je crois que tous les députés sont de l'avis que s'ils ont une élection avant de quitter l'Union européenne, ça sera peut-être la destruction du Parti conservateur dans le Parlement.
Avant d'entendre la réaction de Jonathan Fenby, on reste à Londres avec vous, Charles Grant. Je rappelle que vous dirigez le Center for European Reform. Avec vous, on va s'intéresser à la forte proportion de Britanniques qui, au moment des élections européennes, ont élu des députés qui, eux, veulent rester dans l'Europe. Je crois même que si on fait l'addition des trois formations en question, le problème c'est qu'elles sont trois, c'est quelque 40%, donc ils dépassent le nombre de gens qui veulent sortir. Quelle est la marge de manœuvre pour les partisans du Remain, de ceux qui veulent rester en Europe, Charles?
C'est vrai qu'à peu près 40% des voteurs ont choisi des partis qui sont absolument pour empêcher le Brexit par rapport à 35% qui ont voté pour les partis qui sont vraiment décidé de promettre le Brexit. Et entre les deux, vous avez les travaillistes et les conservateurs qui n'avaient pas de politique claire sur cette question. Mais à mon avis, trois questions vont déterminer le résultat du processus Brexit. Trois questions comptent. Première question, est-ce que le Parti travailliste va changer sa politique vers un deuxième référendum et de faire la campagne pour empêcher le Brexit pour Remain? Première question. La réponse est probablement, mais c'est pas certain. Deuxième question. Est-ce que le Parlement britannique peut empêcher un gouvernement conservateur qui poursuit la politique de no deal, de quitter l'Union sans un accord? La réponse, encore une fois, c'est probablement, mais on ne peut pas être certain. Et troisièmement, si les Britanniques disent à l'Union européenne fin octobre, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour résoudre nos problèmes avec le Brexit, est-ce que l'Union européenne va étendre l'article 50 pour donner les Britanniques un peu plus de temps? Ma réponse est encore probablement, mais on ne peut pas être certain. Alors, je crois qu'un scénario qui est crédible, c'est le suivant. Boris Johnson ou quelqu'un comme lui devient Premier ministre cet été. Il va à Bruxelles au mois de septembre pour dire changer l'accord sur Brexit, changer les provisions pour l'Irlande du Nord. Il faut un time limit sur la provision pour l'Irlande du Nord pour le soi-disant backstop. L'Union européenne va dire non. Alors, puis le Premier ministre britannique va dire OK, on va quitter l'Union sans un accord. Le Parlement empêche ça. Peut-être avec une motion pour détruire le gouvernement de Boris Johnson. Puis vous avez des élections. Puis vous avez un gouvernement travailliste déjà qui a dit il veut un deuxième référendum. Et puis on peut avoir un deuxième référendum vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine. C'est possible, mais c'est pas certain, évidemment.
On en revient quand même toujours, et c'est l'admirable tradition britannique, au rôle du Parlement, et singulièrement au rôle de ce personnage haut en couleur, qui s'appelle John Bercow, et qui est le président de la Chambre des communes. Il est président de la Chambre des communes depuis 10 ans, et on a vu qu'il joue un rôle prépondérant, parce que comme il n'y a pas de constitution écrite, il se fait un malin plaisir d'interpréter toutes sortes de péripéties qui, depuis le Moyen-Âge, ont émaillé, en quelque sorte, la vie politique des îles britanniques.
C'est vrai. Monsieur Bercow a dit que si un gouvernement conservateur essaie de quitter l'UE sans un accord, il va essayer d'empêcher ça, il va essayer de travailler avec la majorité des députés qui ne veulent pas un Brexit deal pour empêcher ça. Et il peut peut-être trouver des règlements anciens, chercher des règlements anciens ou créer de nouveaux règlements pour empêcher ce fait, parce que la droite du Parti conservateur parle du prorogement du Parlement. Ça veut dire qu'il parle de l'idée de renvoyer le Parlement pour que le Parlement ne peut pas empêcher un Brexit sans un accord. C'est ce que le roi Charles Ier a fait dans le XVIIe siècle. Et Burke a dit qu'il ne faut pas répéter ça.
Oui, ça n'avait pas très bien fini à l'époque. Charles Gant, merci mille fois d'avoir été au téléphone avec nous depuis Londres. Marie-Claire considère Charon. On voit bien que, et c'est ce qui nous trouble, nous, me semble-t-il, de ce côté-ci de la Manche, il y a un problème institutionnel dans un système qui a fonctionné. Avec la Common Law, on admire tous la Magna Carta, c'était en 1215. Et depuis, on a vu ce système parlementaire, certes avec des crises, mais survivre à toutes les péripéties de l'histoire. Et là, on a l'impression que ce système est à bout de souffle.
Tout à fait. Ce système qui semblait être ce qu'on appelait la mère de tous les parlements, un modèle de démocratie parlementaire, eh bien, ne fonctionne plus, est complètement grippé, on pourrait dire, et on assiste donc à une dérive institutionnelle qui est très dommageable pour la démocratie, puisque le gouvernement, on a vu avec sous Theresa May, ne pouvait pas remplir son rôle. Le gouvernement avait un cabinet totalement divisé.
Je crois qu'il y a quelques 36 ministres qui sont partis en 3 ans.
Il y a eu un nombre de démissions phénoménal, tout à fait, et tout à fait inédit. Et donc, il n'y avait aucun... Ce n'était pas vraiment un gouvernement. La première ministre ne pouvait pas s'appuyer sur une majorité. On rappellera qu'elle a eu cette fâcheuse idée, bon, d'abord d'organiser des élections en 2017, qui se sont très mal terminées, puisque au lieu de conforter sa majorité, elle s'est retrouvée sans majorité, ce qui l'a obligée à sceller un pacte avec un petit parti unioniste démocrate nord-irlandais ultra-conservateur, qui ne représente en rien l'Irlande du Nord, puisque l'Irlande du Nord, il faut le répéter, a voté majoritairement contre le Brexit. Et donc,
singulièrement lors des élections européennes.
Aussi, et tout à fait. Et donc, mais elle s'est trouvée prisonnière, en quelque sorte, de ce petit parti, d'ailleurs, qui est rentré dans cette alliance, moyennant la coquette somme de 1 milliard d'euros. Donc, il y a eu, on ne peut pas dire, c'est plus un marché qu'une alliance, mais il lui fallait une majorité. Elle a cru en trouver une majorité. En fait, elle ne l'a pas du tout trouvée, puisque cette majorité, puisque ces unionistes ne l'ont pas soutenue, bien au contraire, ils se sont très vite opposés à son projet parce qu'ils étaient hostiles au dispositif du backstop, sur lequel on pourra revenir.
Donc le successeur, quel qu'il soit, de Theresa May, va se trouver, par rapport à ce tout petit parti, dans la même situation de dépendance.
Tout à fait. Alors, voilà, ce n'est pas acquis. En ce moment, il y a des pourparlers à Belfast pour le rétablissement de l'exécutif nord-irlandais qui est suspendu depuis janvier 2017. Donc, l'Irlande du Nord n'a pas de gouvernement, ce qui prive l'Irlande du Nord d'une voix, pour vraiment d'une voix légitime pour pouvoir s'exprimer sur le processus du Brexit, puisque Arlene Foster, la chef du Parti unioniste démocrate, comme je l'ai dit, n'a ni la légitimité, puisque son gouvernement ne fonctionne plus, ni la représentativité, puisque elle étant bien sûr farouchement partisane du Brexit et du maintien donc de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, eh bien elle est vraiment hostile à tout assouplissement, et elle s'est arc-boutée sur ce non au dispositif d'union douanière que procure le backstop. Et non seulement elle, mais les conservateurs, ce sont souvent les conservateurs purs et durs, les Brexiteers, se sont souvent alignés sur les positions de ce petit parti unioniste démocrate. Alors, est-ce que fera le nouveau chef de gouvernement? Il y a donc ces pourparlers. Est-ce que ce pacte sera renouvelé? Il y aura certainement des pressions, si c'est Boris Johnson, de la part de ces, disons, des autres membres élus du parti de l'Irlande du Nord contre ce soutien, parce que vraiment Boris Johnson, c'est tout ce qu'ils abordent, en fait.
Mais et puis il faut quand même toujours rappeler que les Irlandes restent sur le plan politique, religieux, émotionnel, extrêmement volatile, sinon explosif.
Bien
il y a
sûr.
Eu l'assassinat
sûr,
il y a quelques semaines
McKee,
de
oui.
cette jeune journaliste.
Derry, voilà.
Anand Menon, je rappelle que vous êtes professeur de politique européenne et de relations internationales au King's College de Londres. Vous êtes aussi directeur de UK in a Changing Europe, qui est un groupe d'universitaires tout à fait remarquable, qui publie des analyses non partisanes sur l'Europe et le Brexit. Boris Johnson fait campagne auprès des militants conservateurs en disant « Moi, je suis prêt au no deal, je suis prêt à sortir parce que c'est ce qu'il y a de plus important. » Est-ce que véritablement, c'est là-dessus qu'il peut succéder à Theresa May ?
Enfin, pour le moment, il est le favori de la succéder. Mais je dirais que ce que dit Boris Johnson n'est pas toujours ce qu'il fait. Alors, personne ne sait exactement ce qu'il va faire s'il devient Premier ministre. Il peut peut-être essayer de quitter l'Union européenne sans accord. Également, il peut, c'est tout à fait possible qu'il accède à Number 10 et puis il dit, écoutez, j'ai réfléchi, j'ai décidé qu'il ne faut absolument pas quitter l'Union européenne sans accord. Alors, avec lui, c'est jamais certain ce qu'il va faire.
Mais son problème quand même, c'est de convaincre suffisamment de députés. Alors, est-ce qu'il a davantage de talent politique, il n'en manque pas, pour convaincre aussi des députés travaillistes qui sont pour sortir?
C'est ça le problème, parce qu'il me semble qu'il sera plus difficile pour un nouveau Premier ministre conservateur de convaincre les députés travaillistes que pour Theresa May, parce que tout le monde savait bien qu'elle allait partir. Alors là, c'est le grand paradoxe de la situation actuelle ici. C'est qu'on peut changer de Premier ministre, mais on ne change pas de Parlement. Les nombres sont exactement les mêmes qu'a confronté Theresa May.
En plus, la sortie, enfin la chute de la falaise, pour reprendre l'image qu'on a employée pendant 3 ans, ça peut aussi se passer par accident. Alors, à ce moment-là, ouais. Est-ce que le péril... Donc, il y a toutes sortes de dangers économiques, et on y reviendra avec Ian Beck tout à l'heure, et avec nos amis ici à Paris. Mais il y a aussi un danger politique.
Oui, il y a un vrai danger politique, parce que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord, puis il y aura des effets immédiats ici. Et la tentation ici du Parti conservateur, de la média, sera de dire c'est exactement ce qu'a fait l'Union européenne pour nous punir. Et alors on aura un discours de plus en plus nationaliste, de plus en plus anti-européen. Et ça, pour moi, le vrai danger d'un exit sans accord. Qu'on va rompre les liens politiques entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe.
Merci beaucoup. Merci, Anand, d'avoir été avec nous par téléphone. Jonathan Fenby, quand Anand Menon parle d'un danger politique, si jamais le no deal a lieu, donc le Brexit dur intervient, à ce moment-là, cette idée que la solidarité qui a été tellement merveilleusement célébrée vendredi dernier sur les plages de Normandie, cette solidarité européenne, est-ce que vous pensez, vous partagez l'idée qu'il développait brièvement, qu'il y aurait une espèce de réaction très anti-européenne?
Oui, c'est tout à fait possible. Et déjà, on a vu ça. Lors du référendum, je me trouvais dans un avion par hasard, en rentrant de l'Espagne, et les Brexiteers, là, étaient absolument farouches, comme ça. Comment il faut empêcher ça, il faut rebooter les Européens. Même, ils disaient, parce que les Français sont toujours en grève, il faut envoyer James Bond voir le président Hollande, qui était à l'époque.
Oui.
Comme si ça débordait toute raison. Et je crois, on a parlé là des partis politiques, des institutions, qui sont très très importants, évidemment tous les deux. Mais je crois, ce qu'il y a aussi, c'est en général volatilité, comme vous venez de dire, pour l'Irlande. C'est le cas aussi dans tout le Royaume-Uni, presque. La vie est devenue beaucoup plus crispée depuis surtout 3 ans. Et ça reflète pas seulement la politique, pas seulement les problèmes des institutions, mais les divisions dans le pays, qui devient de plus en plus frappant, de plus en plus important, la manque de confiance dans le gouvernement, n'importe quel gouvernement, le mépris qu'on a pour les hommes et les femmes politiques, etc. Toutes ces choses dont, si je peux dire, j'avais écrit sur la France il y a 20 ans, beaucoup. On trouve ça de plus en plus en Angleterre. Le fair play, le gentleman anglais, ça n'existe plus. Et le danger, c'est que ça va nous mener, s'il y a un no deal sorti, avec toutes les difficultés économiques et sociales qui vont suivre de ça, à une position très anti-européenne.
Et c'est là, Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, c'est là où on voit bien que les deux personnages qui sont sortis gagnants de ce champ de ruines, ou qui émergent en tout cas aujourd'hui, correspondent bien à ces crispations et à cette dimension quasi caricaturale de la vie politique, à commencer par celui qui est le favori des bookmakers pour succéder à Theresa May, c'est-à-dire Boris Johnson.
Boris Johnson, oui, qui a beaucoup de mal à se défaire de cette image, celle d'un bouffon politique, en fait. Il fut un temps, se souvient une ancienne correspondante du journal canadien Globe and Mail au Royaume-Uni, eh bien Boris Johnson amusait ses compatriotes. En 2010, par exemple, lorsqu'il était maire de Londres, il était un peu une blague, écrit la journaliste, qu'il décrit comme un animateur de quiz affable, un romancier, un chroniqueur de journaux. En fait, précise-t-elle, Boris Johnson était un ancien journaliste et un ancien ministre du Shadow Cabinet conservateur, viré à 2 reprises, une fois pour avoir inventé un peu trop ses articles et l'autre fois pour avoir menti à son propre chef conservateur. Il faut dire que le mensonge colle à la peau de Boris Johnson. On a appris que l'ex-ministre britannique des Affaires étrangères va être convoqué par un tribunal car il est soupçonné d'avoir menti pendant la campagne du Brexit en déclarant que le Royaume-Uni donnait à l'Union européenne 350 millions de livres par semaine. Une accusation que réfute Bojo, c'est son surnom, en route vers le 10 Downing Street. Mes chances de devenir Premier ministre sont aussi élevées que celles de trouver Elvis sur Mars ou d'être réincarné en une olive, a dit un jour ce quinquagénaire, sans doute pour faire un bon mot. Aujourd'hui, en fait, il est le candidat le mieux placé pour prendre la tête du Parti conservateur et donc devenir certainement le futur Premier ministre. Un incroyable renversement de situation pour cet habitué des gaffes. Mais comme le constate le Globe and Mail, la médiocrité très médiatisée de Boris Johnson n'a eu aucune incidence sur sa popularité. Il a pris l'habitude d'échouer vers le haut, raconte la journaliste. Une façon très britannique, selon elle, de chercher le pouvoir sans avoir l'air de le chercher, comme une ambition cachée dans un vieux pull mité que vous gardez dans votre maison de campagne. Alors, il reviendra aux députés conservateurs de choisir leur chef de file. Et parmi les 11 candidats en liste, en tout cas, Boris Johnson est à 54 ans le grand favori, celui qui fut l'artisan de la victoire du Leave en 2016, explique partout, je cite, que le Brexit doit être bouclé. Nous quitterons l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord. Pour obtenir un bon accord, il faut se préparer à une absence d'accord. Pour avancer, il faut être prêt à claquer la porte, rapporte le Daily Telegraph en le citant. Mais le problème, estime de son côté le quotidien The Guardian, c'est que les chefs de gouvernements européens sont unanimes sur le fait que Johnson est un charlatan détestable et un colporteur trumpiste d'intox sur l'Union européenne.
Mais sur ce terrain-là, Boris Johnson a un rival qui s'appelle Nigel Farage, et on le disait tout à l'heure, le grand vainqueur des élections européennes.
C'est vrai, même si la nouvelle formation de Nigel Farage, qui rêve de renverser le système bipartisan entre conservateurs et travaillistes, eh bien, a connu ce jeudi un revers dans le bastion eurosceptique de Peterborough lors d'une élection partielle. Son candidat McGreen, qui pensait gagner, eh bien, il est arrivé en deuxième position derrière le Labour, mais devant le Parti conservateur. On est très loin du raz-de-marée électoral attendu par le Parti du Brexit, a relevé le correspondant de la BBC, ce qui n'empêche pas Nigel Farage d'avoir déjà très largement réussi son pari. Sa vision des choses est simple, rappelle le site de la BBC. Il faut respecter le résultat du référendum de 2016. Vous avez donné des consignes aux députés, ils ne les ont pas respectées. Message bien reçu par les électeurs britanniques, le parti de Nigel Farage remportant presque 32% des voix aux élections européennes. Maintenant, celui qui a rencontré Donald Trump à Londres cette semaine veut continuer à renverser la table. Comme l'écrit Bloomberg, le parti de M. Farage a été lancé il y a tout juste 2 mois avec un seul objectif, sortir rapidement le Royaume-Uni de l'Union européenne sans parvenir à un accord. À ses yeux, si le conservateur ne mène pas le Royaume-Uni hors de l'Union européenne avant la date limite d'Halloween, ils en récolteront les conséquences. En résumé, Farage parie sur la nuit des morts vivants pour enterrer les vieux partis politiques britanniques.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Ian Begg, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes professeur à la London School of Economics et co-directeur du Dahrendorf Forum, qui, en mémoire du grand Dahrendorf, travaille sur des questions d'intérêt commun. Ian, commençons par la situation économique du Royaume-Uni aujourd'hui, parce que on a l'impression d'une situation très contradictoire. Jusqu'à quel point est-ce que les milieux du business, les milieux financiers aussi de la City, sont de plus en plus inquiets au vu de la détérioration de la situation politique?
Oui, bonjour Christine. Vous avez raison que la conjoncture britannique est ni froid ni chaud. Nous avons une taux de croissance à peu près à la moyenne européenne et le marché du travail qui fonctionne très bien. Il y a un record d'emploi, il y a très peu de chômage, au contraire de la France, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur les questions économiques et les grandes entreprises, ils se méfient de ce qui se passe, ils craignent que encore des retards dans le Brexit ou la résolution du Brexit amène à ce qu'il y ait des difficultés économiques d'ici 3-4 ans et que ça risque de finir mal.
Il y a déjà, je crois, des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, de main-d'œuvre parce qu'il y a beaucoup d'Européens de l'Est en particulier qui ne viennent plus travailler en Grande-Bretagne.
Oui, mais il y a quand même de l'immigration qui vient d'ailleurs dans le monde. Donc c'est une sorte de paradoxe. Tout le défi de Brexit, c'était de diminuer l'immigration, mais on voit que l'Asie du Sud et d'ailleurs on cesse d'accroître le nombre d'immigrés. Donc il y a du main d'œuvre, mais dans certains secteurs il y a une manque de qualité ou il manque des personnes qualifiées dans certains domaines.
Qu'en est-il des milieux financiers? Parce qu'on voit que la City de Londres considère en gros que le personnel politique l'a abandonné ou en tout cas n'a pas pris suffisamment en compte les intérêts de la place financière. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a déjà un impact sur la livre sterling et est-ce que la livre risque de baisser encore dans les mois qui viennent?
Ça dépend. Parce que il y avait déjà une chute de livre sterling tout de suite après le référendum, mais après, il est remonté. Et puis, on voit de nouveau des difficultés avec l'émission de Theresa May parce qu'on craint que ça va amener encore de l'incertitude. Donc, il faut pas trop mettre sur le taux d'échange. Par contre, les gens du City se méfient. Ils constatent qu'on parle beaucoup d'union douanière, mais cette sorte d'union n'a rien à voir avec le City parce qu'ils n'exportent pas à travers les douanes. Il n'y a pas des tarifs sur les exportations financières. Et voilà tout le dilemme que le City se sont abandonnés dans cette négociation.
Oui, d'autant qu'évidemment, c'était tout à fait dans l'intérêt des Britanniques, ce que Mme Thatcher avait compris avant tout le monde, d'avoir aussi un marché pour les services. Mais on n'en est pas là du tout, même au sein des 27. Une autre question, Ian Begg. On a vu que le gouvernement de Mme May n'a pratiquement rien fait sur le plan de la politique intérieure. Je pense aux infrastructures, je pense aux problèmes sociaux qui en principe quand même correspondent aux priorités des citoyens britanniques.
Tout à fait. Et c'est clair que la raison, c'est l'attention qu'on porte sur le Brexit. Mais je reviens un instant sur le fait des exportations parce que maintenant, dans l'économie britannique, quasiment 50% des exportations sont des services. Donc ça évolue. C'est plus les produits industriels qu'on connaissait d'antan.
Marie-Claire, restez avec nous, Yann, si vous le voulez bien. Je voudrais demander à Marie-Claire, considère Charon, est-ce que jusqu'à un certain point, le Brexit a eu une sorte d'effet placebo, c'est-à-dire en gros, on s'occupe du Brexit, on ne parle que du Brexit, c'est obsessionnel. Ça atteint même un niveau hystérique, au niveau, comme le disait Jonathan, au niveau de la des tensions.
Oui, vous parlez au niveau de la population.
Mais au niveau de la population, comment est-ce que les gens vivent tout cela?
Ils le vivent très mal. Ils le vivent très très mal parce que justement, c'est le pire, c'est l'incertitude en fait. Et je pense que cette incertitude, elle peut expliquer aussi pourquoi l'électorat s'est tourné vers des candidats, vers des partis qui ont des choix clairs. Donc, où ils sont à fond pour sortir, comme le parti du Brexit, ou bien alors il y a ceux qui sont pour le Remain. Et on voit que les deux partis de gouvernement, justement, ont eu des positions plutôt ambiguës. Parce que même le choix de Theresa May, c'était très compliqué. Elle a voulu faire un Brexit dur, mais elle a oublié qu'il y avait le problème de l'Irlande du Nord. Alors, elle a introduit ce principe d'union douanière temporaire. Mais
Michel Barnier et ses collaborateurs qui ont trouvé.
Et qui l'ont trouvé.
Qui ont proposé cette solution.
Parce qu'elle avait, évidemment, mais elle l'a mis dans son accord, bien sûr, et qu'elle a proposé comme ça. Et là, ça a été rejeté parce que c'est justement dont ils ne veulent pas. Ils veulent, parce qu'ils se sentiraient piégés par cette union douanière. Donc, on a pu voir une petite ouverture avec les pourparlers avec Jeremy Corbyn. Le leader travailliste, mais le souci c'est que lui, il s'orienterait vers une union douanière qui serait permanente. Alors il est évident que tous ceux qui rejetaient une union douanière provisoire ne pouvaient pas être partisans d'une union douanière permanente. Donc c'est ce qui explique, c'est vraiment ce qu'on a dit, que c'était la quadrature du cercle. Mmh. Parce qu'alors quel type de Brexit? Et là je viens un peu au secours de Theresa May parce que elle a peut-être très mal géré son affaire, mais d'emblée, elle se trouvait confrontée avec un dossier extrêmement difficile, compte tenu de la présence de cette enclave de l'Irlande du Nord et compte tenu de cet espace économique unifié qui s'est créé entre les deux Irlandes. Alors, elle ne voulait pas, et là, justement, on en revient à la présence du Parti unioniste démocrate, on aurait pu isoler l'Irlande du Nord de l'accord global en lui donnant un traitement différentiel. Et bien sûr, le Parti unioniste démocrate, par la voix de Arlene Foster, s'est insurgé violemment contre cette solution en disant qu'on assistait au démembrement du Royaume-Uni.
Alors, démembrement du Royaume-Uni, l'Écosse.
Et l'Écosse.
Alors, on sait que l'Écosse a voté très majoritairement pour rester dans l'Union. On sait qu'il y a eu un référendum il y a quelques années, l'Écosse voulant encore plus d'autonomie, sinon même l'indépendance. Qu'en est-il aujourd'hui l'Écosse?
Alors, le souci pour l'Écosse, c'est que l'Écosse aimerait beaucoup organiser un nouveau référendum. Le problème, il y en a eu en 2014. Les Écossais n'ont pas voulu de l'indépendance parce qu'ils ne voulaient pas quitter l'Union européenne. Mais maintenant que le Royaume-Uni a décidé de la quitter, la donne a changé complètement. Donc seulement le problème, c'est que pour organiser un référendum, il faut l'autorisation du gouvernement britannique. Alors, on imagine les difficultés. Donc, il y aura certainement des pressions répétées et constantes en faveur d'un nouveau référendum. Mais pour l'instant, on ne voit pas comment cela peut se faire.
Yann Begg, on vous rejoint à nouveau à Londres. Je rappelle que vous enseignez à la London School. On a vu le président américain Donald Trump et toute sa famille, parce qu'il est quand même venu avec tous ses enfants, sauf le junior, pour voir la reine. On le comprend. Mais on a vu surtout un président américain qui a véritablement fait une entrée fracassante dans le débat du Brexit en promettant, je le cite, un accord phénoménal. Il a répété, je crois, l'adjectif plusieurs fois, en disant « Vous sortez, de toute façon, pas question de payer 50 milliards pour divorcer de l'Union européenne. Ça fait longtemps. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que Donald Trump encourageait les Britanniques à sortir. Quel a été véritablement l'impact de ces déclarations du président américain et ses promesses d'un accord commercial préférentiel ?
Je crois que beaucoup de personnes ont dit, bon, voilà, c'est Trump, il fait comme ça. On ne prend pas très au sérieux. Mais pour l'accord de commerce qu'il propose, c'est une fantaisie. Parce qu'on sait que les accords de commerce, ils prennent des années à régler. Et que ce que propose Trump ne peut pas se faire sans le Congrès. Donc, c'est une sorte de fantaisie qui nous propose que beaucoup de gens ici ne prennent pas au sérieux.
Mais il a quand même fait une gaffe en disant que dans ces accords, il fallait inclure les services de santé, c'est-à-dire autrement dit, ouvrir les budgets de la santé publique qui sont en Grande-Bretagne, plus encore que chez nous, je crois, une institution véritablement adorée par les Britanniques. En gros, ouvrir ces budgets aux firmes pharmaceutiques américaines.
Bon, les pharmaceutiques, c'est autre chose, mais c'est les services surtout que dont il parlait. Et vous avez tout à fait raison que pour les Britanniques, le National Health Service est une sorte de religion, comme on a dit, plutôt qu'une service. Et en proposant qu'on ouvre les budgets du National Health Service aux compagnies américaines pour quoi que ce soit, je crois que, de nouveau, Donald Trump ignore les volontés britanniques. Donc, pour moi, il y a très peu de chances que ça arrive. Et déjà, quasiment tous les candidats pour être à la succession de Theresa May ont dit non, il n'y a pas question qu'on ouvre ça.
Revenons à ce scénario quand même, qui peut être considéré comme le scénario du pire. Donc, finalement, il y a une sortie sans accord. Donc, ça veut dire un chantier absolument immense d'accords bilatéraux que la Grande-Bretagne devrait négocier, d'abord avec ses anciens partenaires européens.
Oui, et avec le reste du monde aussi, parce que une grande partie des accords qui profitent aux Britanniques en ce moment sont déjà négociés par l'Union européenne. Donc, on va voir si, par exemple, l'accord avec le Japon qui vient d'être conclu, est-ce que ça va passer aux Britanniques ou bien il faut recommencer à zéro? Ça, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur les futures relations commerciales. Mais en même temps, je crois qu'il y a très peu de chances que ça amène à une sortie sans accord, parce que le Parlement va bloquer ça. Il va trouver le moyen de bloquer ça.
Néanmoins, on croyait, enfin David Cameron, il faut quand même le rappeler, c'est parce que c'est quand même hallucinant, donc ce jeune Premier ministre conservateur, qui avait devant lui une dizaine d'années assez tranquilles, s'il n'avait pas déclenché ce référendum pour venir à bout de ce qui est toujours le problème des premiers ministres conservateurs, c'était pas le premier, mais pour venir à bout des anti-européens au sein de son propre parti, enfin, les résultats du référendum ont été un choc. Et on s'est surtout aperçu qu'il n'y avait aucune préparation. Est-ce que l'administration britannique se prépare néanmoins au scénario du pire?
Oui, il se prépare, mais à petit pas. Parce que déjà en 2016, Cameron avait interdit aux services publics de préparer ça en croyant qu'il avait le moyen de gagner. Il y a bien sûr des préparations qui se font dans le service de santé parce que on a trouvé le moyen d'avoir des stocks de médecines, par exemple, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les ports ni dans les aéroports. Il y a une sorte de recherche de moyens de régler ça, mais c'est pas au niveau qu'il faut pour éviter le pire. C'est pour ça que je dis que je dis toujours que le Parlement va bloquer une sortie sans accord.
Eh bien, restons avec vous, Yann, sur cette prédiction et tournons-nous maintenant vers vous, Sébastien Maillard. Bonjour, je rappelle que vous dirigez à Paris l'Institut Jacques Delors, parce que comment réagit-on côté européen ? Comment réagit-on à Bruxelles face à ces incertitudes britanniques prolongées, répétées, aggravées ?
Bonjour, et effectivement, on réagit avec de l'inquiétude puisque la perspective d'accueillir, par exemple, une personnalité comme Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique n'est pas pour réjouir le reste du continent. On sait que effectivement, avec lui, la partie peut être très dure. Ce qui est sûr, c'est que aussi bien Michel Barnier qui préside toujours la task force qui a été mise en place pour négocier le retrait britannique, et aussi bien que Jean-Claude Juncker, qui est toujours aussi président de la Commission européenne à ce stade, ont bien averti qu'il n'y aurait pas de renégociation de l'accord de retrait. Pour eux, il y a un seul accord qui est sur la table, c'est celui qui a été négocié avec Theresa May, et les candidats au Premier ministre ont beau répéter qu'ils espèrent renégocier, et ils ont été très très fermes là-dessus. D'ailleurs, il y a un fait révélateur, c'est que une des principales négociatrices de cet accord, Sabine Veillant...
Oui, la numéro 2 de la délégation européenne.
Exactement, a été tout récemment nommée directrice générale du commerce, donc ça, c'est aussi un signe envoyé que nous, on est en train de passer à autre chose. On sait que Michel Barnier aussi a d'autres aspirations. Donc, là, côté Bruxelles, on se dit, on va pas reperdre du temps encore à tout réouvrir les négociations. Il y a un accord qui a à prendre ou à laisser, et si on laisse, c'est effectivement, malheureusement, la perspective d'un no deal auquel la Commission a aussi, à laquelle elle s'est éventuellement aussi préparée.
On a souligné à juste titre pendant 3 ans la solidité des 27 qui sont restés quand même malgré plein de grincements sur d'autres sujets, les 27 sont restés extrêmement solidaires face aux négociations du Brexit. Mais on a vu aussi au dernier conseil des chefs d'État et de gouvernement, je crois que c'était en avril, consacré au Brexit, quand même des fissures apparaître.
Oui, notamment entre la France et l'Allemagne. Il n'y a pas tant de fissures en ce qui concerne l'idée de renégocier ou pas l'accord de retrait. Ça, tout le monde est bien d'accord que cet accord, on ne va pas le rouvrir. En revanche, sur la facilité ou non avec laquelle on peut accorder un nouveau report à la Grande-Bretagne, a pu provoquer un différend. Là, cette fois-ci, on sait que le président français, Emmanuel Macron, a été très, n'en voulait pas. Il voulait qu'on reste, en tout cas, à fin juin. D'autres disaient même tout fin de l'année. Donc, on s'est mis d'accord sur 31 octobre. Certains espèrent effectivement que peut-être on pourrait encore se montrer souple et reporter de nouveau. Qui en fait, plus on reporte le Brexit, moins il a lieu, donc quelque part peut-être même ça peut finir par l'ensabler et le faire disparaître. Mais ce que regrette la France vivement, c'est qu'on reste pendant tout ce temps dans un état de flou juridique quand même gênant, puisque dans l'Union européenne, soit on est État membre, soit on ne l'est pas, ou si on ne l'est pas, on peut avoir justement des accords d'association avec l'Union européenne, mais être un État membre sortant, c'est un statut qui n'existe pas et qui donne effectivement beaucoup de qui laisse persister de l'incertitude dans ce phénomène. On l'a bien eu d'ailleurs dans les élections européennes. On a élu 751 eurodéputés, sachant que là-dedans, il y en a 73 qui attendent de savoir s'ils seront ou non ou pas élus, c'est en fonction du départ des Britanniques. Donc c'est vrai que c'est une situation inutilement compliquée plus on est avec ou sans Brexit.
Sébastien, restez avec nous quelques minutes encore, si vous le voulez bien. Jonathan Fenby, imaginons, on se projette maintenant à la fin juillet, Boris Johnson est effectivement le nouveau Premier ministre britannique. Donc tout le monde accroche sa ceinture. Néanmoins, il va devoir gouverner. Il veut renégocier. Bruxelles dit non, pas question. Qu'est-ce qu'il fait ? Il négocie un allongement de la période de transition, donc au-delà du 31 octobre ?
Ou ça sera le peut-être la voie sage de prendre. Mais c'est tout à fait possible qu'il va dire, Boris, non, on sort, c'est les méchants européens qui ont refusé de améliorer les termes, etc. Et il aura soit une élection, soit un autre référendum. Qui est toujours possible comme
oui,
ça.
Oui, c'est ce que nous expliquait Charles Grant tout à l'heure, un espèce de feuilleton qui n'en finit
qui
pas.
Et lui, il va jouer ça d'une façon très très personnelle, parce qu'il faut dire aussi à ce moment-là, comme on vient de dire plusieurs fois, c'est probablement qu'il y aura toujours une majorité dans le Parlement actuel contre une sortie sans accord. Donc, il faut qu'il joue ça presque d'une façon présidentielle. Gaullien, si j'ose dire, comme ça, mais dans un sens. Je mettrai pas Boris dans le même sac que le général.
Espérons qu'il en soit flatté, si jamais il nous entend, d'autant qu'il parle tout à fait français.
Non,
il a
mais
été élevé
ce sera
à Bruxelles.
Encore une pression, une tension sur les institutions britanniques qui s'arrête pas à ce moment-là. Et si, par exemple, imaginons qu'il y a un autre référendum, d'après certains calculs, sur la base des élections européennes, le rester, va gagner avec une marge de 2 ou 3 points, comme ça. À ce moment-là, les Brexiteers vont dire « Ah, un troisième référendum, hein, pourquoi pas ?» Ça finit pas. Et dans un sens, Johnson, comme les auditeurs auraient peut-être compris de ce qu'a dit Eric Scholl, c'est quelqu'un qui est complètement imprévisible, comme ça, qui va jouer ça pour son propre avantage, comme ça.
C'est le Trump européen.
C'est le Trump européen, et voyant ce qu'il a fait quand il était ministre des Affaires étrangères, c'était lamentable. N'importe quel autre homme politique ou femme politique aurait évincé. Mais maintenant, c'est probablement le prochain Premier ministre. Et il faut dire aussi, il sera élu par un parti qui a gagné moins que 10% aux élections européennes et par une base de à peu près 100 000 personnes qui sont ringards, qui sont brexitiers, qui sont extrêmes comme ça et qui franchement, ça ne les concerne pas si la suite de ce qui va venir plus tard dans l'année. Et c'est très dangereux pour le Royaume-Uni.
Et très dangereux aussi pour l'Europe.
Pour l'Europe, enfin.
Et Sébastien Maillard, on en vient évidemment à la menace que représente désormais Nigel Farage. Il faut quand même rappeler, c'est ahurissant, qu'il a plus de députés au Parlement européen aujourd'hui que la CDU de Madame Merkel. Il a le premier parti politique dans ce nouveau Parlement. Or, on le sait aussi, une nouvelle commission doit être nommée, désignée, un nouveau président du Conseil européen, donc du Conseil des États et des gouvernements. Quelle peut être la capacité de nuisance et la capacité de blocage de la trentaine de députés de M. Farage?
Alors, capacité de blocage, ils n'en auront pas, mais effectivement, vous avez raison de le souligner, le fait que The Brexit Party ait gagné 29 sièges, qui le place comme le premier parti de ce Parlement européen devant la CDU stricto sensu, si on compte CDU-CSU, là ils ont un peu plus, mais c'est vrai que ça fait effectivement le premier parti. Ça va plutôt changer les rapports de force entre les groupes politiques, une fois que le jour où le Brexit arrive, s'il arrive, effectivement, un retrait du Brexit Party, mais aussi des libéraux-démocrates, du Labour et des quelques Tories qui sont là, effectivement, va remodifier encore les rapports entre les quatre les différents groupes politiques du Parlement européen. Et pendant ce temps-là, effectivement, là, nous sommes dans la période où les dirigeants européens, le Parlement européen, les nouveaux élus vont choisir leurs dirigeants. Il est attendu que le Royaume-Uni adopte une attitude loyale d'abstention constructive, comme on dit, et ne s'immisce pas dans des nominations qui, a priori, ne les regardent pas. Mais ça, c'est une attitude politique, je dirais, de fair play, de gentleman, attendue de leur part. Juridiquement, ils ne sont pas du tout tenus de jouer ce rôle-là, puisqu'effectivement, ils restent pour le moment un État membre à part entière, et donc ils peuvent tout à fait, notamment au Conseil européen, participer à la discussion. Mais là aussi, ce sera un bon test intéressant de voir jusqu'à quel point ils sont sincèrement dans un état d'esprit de sortie ou de continuer à être en fait un État membre.
Mais Jonathan Fenby, et je crois que le mot de la fin vous revient, c'est là ce que souligne Sébastien, ces règles de fair play qui ont été inventées dans vos îles. Est-ce que véritablement c'est encore de mise ?
Non, pas du tout. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a ces divisions britanniques qui vont au-delà de Brexit, mais qui sont reflétées dans... le débat sur le Brexit, qu'il est en même temps l'effet beaucoup plus aigu qu'il n'était avant. Et c'est ça une question beaucoup beaucoup plus large pour l'Angleterre. Et là-dedans, je crois, le fair play a très peu à jouer.
Ce qui est très étonnant, et je crois que nous avons été nombreux, encore une fois, en ces derniers jours de commémoration du débarquement en Normandie, à nous remémorer la grandeur britannique. La grandeur britannique et la tradition d'une nation marchande qui a créé un empire immense avec au fond très peu de monde au départ et donc une capacité de pragmatisme absolument sidérante.
C'est l'idéologie.
Alors, où est-ce que tout cela est passé ?
Peut-être que je suis trop le britannique pragmatique quand je dis ça, c'est les dangers de l'idéologie. Et c'est ça qu'on a en Angleterre et de la passion politique. Ce qu'on a toujours évité dans le passé. Et maintenant...
Et c'est quoi ? C'est de notre faute, c'est contagieux, ça a traversé la Manche.
C'est contagieux, oui, mais c'est aussi la faute de la classe politique britannique qui n'a pas su mener du tout tous les changements du monde moderne, là. Il y a certains, évidemment, qui regardent vers le 19e siècle et qui rêvent d'un nouveau empire britannique avec des accords commerciaux partout, on ne les voit pas, etc. Et il y a des autres pleins qui ont peur. Et des autres, le Remain Camp, dans lequel je suis, je l'avoue, qui s'est mobilisé d'une façon très, très mauvaise. Et aussi, c'était dès le début, Cameron a eu, je crois, faux en allant vers le référendum et on a appris que les référendums, c'est très dangereux.
Oui, ça, nous en avions une certaine expérience. Merci, merci à tous. Merci donc à vous, Jonathan Fenby, écrivain, historien. Et vous venez de publier un livre qui n'est pas encore traduit, mais qui a eu droit à quelques critiques absolument splendides en Grande-Bretagne sur les années 1947-1948, c'est-à-dire ces 13 mois qui ont forgé notre monde. Merci à vous, Marie-Claire Considère-Charon, professeure émérite de civilisation britannique et irlandaise à l'Université de Franche-Comté. Vous avez publié « Brexit à l'irlandaise » dans la revue française de civilisation britannique en mars 2009. Et vous avez aussi participé à la revue de l'IFRI. Je remercie bien sûr Anand Menon, professeur au King's College de Londres et directeur de UK in a Changing Europe, Ian Begg de la London School, Charles Grant du Center for European Reform. Merci à vous Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Vous avez coécrit avec Enrico Letta « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». On y est véritablement, c'était chez Fayard l'an dernier. Merci à Eric Scholl, courrier international. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Anthony Thomasson. Meryl Moneghetti a préparé cette émission comme chaque semaine et mettra toute la bibliographie nécessaire comme d'habitude sur notre site. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez podcaster notre émission et d'ailleurs toutes celles qui précèdent pendant longtemps, dans un instant, comme chaque samedi. Vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end et très bonne semaine à l'écoute de France Culture, bien sûr.